Ah, n'importe, monsieur le comte peut se vanter d'avoir un singulier jour de noces. Ainsi ricanait un valet de pied au moment où mademoiselle Henriette quittait le salon. Elle l'entendit, et sans savoir si c'était approbation ou raillerie de sa conduite, elle tressaillit d'aise, dont la passion est avide d'encouragement, d'où qu'il vienne. Cependant, elle n'était pas à moitié de l'escalier conduisant à son appartement, lorsqu'elle fut clouée sur place par le bruit de toutes les sonnettes du salon mises en branle à les briser par une main furieuse. Elle se pencha sur la rampe, écoutant. Tous les domestiques accouraient. Le vestibule retentissait de pas effarés. On distinguait la voix impérieuse de M. Ernest, le valet de chambre du comte, qui disait « Des selles, vite, de l'eau froide! Madame la comtesse a eu une attaque de nerfs !» Un sourire amer crispa les lèvres de Mademoiselle Henriette. « Du moins, murmura-t-elle, j'irai empoisonner la joie de cette femme. » Et craignant d'être surprise ainsi aux écoutes, elle monta. Mais une fois seule dans sa chambre, la malheureuse jeune fille ne devait pas tarder à reconnaître l'inanité puérile de son triomphe. Qui avait-elle frappé en somme? Son père. Indisposée ce soir, et encore l'était-elle réellement? La comtesse Sarah serait assurément remise le lendemain. Et alors, quels avantages ne tirerait-elle pas du scandale essayé pour la perdre? Voilà ce que discernait Mademoiselle Henriette, trop tard. Seulement, pour cela que vis-à-vis d'elle-même elle convenait de sa faute, elle n'en était que moins disposée à l'avouer hautement, encore moins à tenter de la réparer en admettant qu'elle ne fût pas irréparable. Par ce qu'elle avait fait, elle s'estimait engagée pour l'avenir. La voie où elle entrait était visiblement sans issue, n'importe, reculer lui semblait une indigne lâcheté. Éveillée avec le jour, elle cherchait dans sa tête par quel côté faible recommencer la guerre quand on frappa à sa porte, et sa femme de chambre, Clarisse, entra. « Voici une lettre pour mademoiselle, dit cette fille. Je viens de la recevoir à l'instant dans une enveloppe à mon adresse. » Cette lettre, mademoiselle Henriette l'examina longtemps avant de l'ouvrir, étudiant l'écriture inconnue de l'adresse. Qui pouvait lui écrire de cette façon, sinon ce Maxime de Brévent à qui Daniel lui avait recommandé de se confier et qui jusqu'alors n'avait pas donné signe de vie. C'était en effet M. de Brévent qui écrivait. « Mademoiselle, avec tout Paris, j'ai appris votre fière et noble protestation le jour du malheureux mariage de votre père. Les égoïstes et les sots vous blâmeront peut-être. Méprisez-les, vous avez pour vous tous les gens de cœur. Et mon cher Daniel, s'il était ici, vous approuverez et admirerez votre courage comme je l'admire moi-même. » Elle respira longuement, comme si sa poitrine eût été soulagée d'un poids énorme. L'ami de Daniel l'approuvait. Quel prétexte, désormais, pour étouffer la voix de la raison et écarter toute velléité de prudence. Toute la lettre de M. de Brévent, d'ailleurs, n'était qu'une longue et respectueuse exhortation à une résistance désespérée, à outrance. Plus loin, il disait « Au moment de monter en wagon, Daniel, mademoiselle, m'a remis pour vous une lettre qui est l'expression de ses plus intimes pensées, avec une pénétration digne d'un cœur tel que le sien. Il prévoit et résout toutes les difficultés dont votre belle-mère ne manquera pas de vous embarrasser. Cette lettre est trop précieuse pour être confiée à la poste, c'est pourquoi, avant la fin de la semaine, je me serai fait présenter chez M. de la Villaudry et j'aurai l'honneur de vous la remettre en ma propre. Et plus loin encore, j'aurai demain, continue M. de Brévent, par un officier anglais de mes amis, l'occasion de faire parvenir de promptes nouvelles à Daniel. Si vous désirez lui écrire, faites-moi parvenir votre lettre aujourd'hui même, rue Lafitte 62, je la joindrai à la mienne. » Enfin, en post-scriptum, il ajoutait « Défiez-vous surtout de Sir Thomas Elgin. » Cette dernière recommandation ne pouvait manquer de troubler singulièrement Mademoiselle Henriette et d'agiter en elle toutes sortes d'appréhensions vagues et terribles. « Pourquoi, pensait-elle, me défierais-je de celui-là plutôt que des autres ?» Mais un souci meilleur ne tarda pas à la distraire. Quoi ? Une occasion se présentait de faire tenir promptement et sûrement des nouvelles à Daniel, et elle risquait en perdant son temps de la laisser échapper. Elle se hâta de s'habiller, et s'asseyant à son petit bureau, elle se mit à retracer à l'unique amie qu'elle eut en ce monde toutes ses angoisses depuis qu'elle l'avait si brusquement quittée, ses douleurs, ses ressentiments et ses espérances. 11 heures sonnaient, lorsqu'elle eut terminé, ayant rempli 8 grandes pages où elle avait mis tout son cœur. Voulant se lever alors, elle se sentit prise d'un malaise soudain. Ses jambes fléchissaient et il lui semblait que tout autour d'elle tremblait. Qu'était-ce donc? Elle cherchait, quand l'idée lui vint que depuis l'avant-veille, elle était presque à jeun. « Il ne faut pourtant pas se laisser mourir de faim, » murmura-t-elle presque gaiement, tant sa longue causerie avec Daniel lui avait remis l'espoir au cœur. Elle sonna donc, et dès que sa femme de chambre parut, « Montez-moi à déjeuner, » lui dit-elle. L'appartement de mademoiselle de la Villaudry se composait de 3 pièces. La première, le salon, ouvrait directement sur le palier. À droite était la chambre à coucher et à gauche un cabinet d'études où se trouvaient le piano, la musique, les livres. Quand Mademoiselle Henriette mangeait chez elle, ce qui lui arrivait souvent depuis quelque temps, c'était toujours dans le salon. Elle s'y était rendue et pour hâter le service, elle débarrassait la table des albums et des menus objets qui l'encombraient quand la femme de chambre reparut les mains vides. « Ah, mademoiselle !»«
Quoi ?»«
Monsieur le comte a défendu qu'on servait mademoiselle chez elle. »«
Ce n'est pas possible. »
Mais une voix railleuse l'interrompit de dehors, disant « C'est vrai !» Et tout aussitôt, monsieur de la Ville-Audrey parut, déjà paré, frisé et fardé, ayant l'air sardonique d'un homme qui enfin tient une revanche. « Laissez-nous !» dit-il à la femme de chambre. Et dès que Clarisse fut sortie, « Mon Dieu, oui, ma chère Henriette, reprit-il, j'ai défendu sous peine d'expulsion qu'on vous montât à manger. Qu'est-ce, s'il vous plaît, que cette fantaisie? Êtes-vous malade? Si oui, je vais envoyer chercher le docteur. Sinon, vous me ferez le plaisir de descendre prendre vos repas dans la salle à manger avec la famille, avec la comtesse et moi, avec Sir Tom et Mistress Brian. Mon père, il n'y a pas de père qui tienne. Le temps des faiblesses extrêmes est passé, comme aussi des apportements. Donc vous descendrez. Oh, quand vous voudrez. Vous voudrez peut-être un jour, deux jours. Mais la faim chasse le loup du bois. Et le troisième, nous vous verrons apparaître dès qu'on aura sonné la cloche. Ce n'est plus à votre cœur que je m'adresse, vous le voyez, c'est à votre estomac. Tels efforts que fit Mademoiselle Henriette pour demeurer impassible, des larmes brûlantes jaillissaient de ses yeux, larmes de douleur et d'humiliation. Cette idée de la prendre par la famine était-elle de son père? Non, jamais elle ne lui fut venue. C'était là une conception de femme, évidemment, et d'une femme haineuse obéissant aux plus vils instincts. N'importe, la pauvre jeune fille se sentait prise et l'ignominie du moyen employé, la certitude qu'elle allait être obligée de céder la révoltée. Son imagination cruelle lui représentait la joie insultante de la comtesse Sarah quand elle, la fille du comte de la Ville-Audrey, elle paraîtrait dans la salle à manger amenée par le besoin, par la faim. « Mon père, supplia-t-elle, ne me laissez servir ici que du pain et de l'eau, mais épargnez-moi ce supplice. » Mais si c'était une leçon que répétait le comte, il s'en était bien pénétré. Ses traits gardèrent leur expression sardonique et d'un ton glacé. « Je vous ai dit mes volontés, interrompit-il. Vous m'avez entendu, il suffit. » Déjà, il se dirigeait vers la porte. Sa fille le retint. « Mon père, murmurait-elle, écoutez-moi. Voyons, qu'est-ce encore? Hier, vous menaciez de me faire enfermer. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vous adjure de prendre cette détermination. Conduisez-moi dans un couvent si étroit et si dur qu'en soit la règle, si triste qu'il puisse être la vie. J'y trouverai un allègement à ma douleur et de toute mon âme, je vous bénirai. » Lui, coup sur coup, haussait les épaules. « Bien trouvé, dit-il. Et du fond de votre couvent, vous vous hâterez d'écrire partout et à tous que ma femme vous a chassé, que vous avez été obligé de fuir les outrages et les mauvais traitements. Vous rééditerez toutes les élégies larmoyantes de l'innocente jeune fille persécutée par une indigne marâtre. Pas de ça, ma chère. » La cloche qui sonnait le déjeuner l'interrompit. « Vous entendez, Henriette, reprit-il. Consultez votre estomac, et selon ce qui vous conseillera, descendez ou restez. » Et il sortit tout fier, c'était manifeste, de ce qu'il appelait un acte nécessaire d'autorité paternelle, sans accorder seulement un regard à sa fille qui venait de s'affaisser sur un fauteuil. C'est qu'elle était brisée, la pauvre enfant, en proie à tous les déchirements de l'orgueil. C'en était fait, il n'y avait plus à lutter. Ce qui, pour la réduire, ne reculait pas devant un expédient si lâche, aurait recours aux pires extrémités. Quoi qu'elle fît, tôt ou tard, il lui faudrait se soumettre. Dès lors, pourquoi ne pas céder tout de suite? Elle sentait bien que plus elle tarderait, plus la victoire serait douce à la comtesse Sarah et le sacrifice pénible pour elle. S'armant donc de toute son énergie, elle gagna la salle à manger où, depuis un moment déjà, les autres étaient à table. Son entrée, imaginait-elle, serait saluée par quelque exclamation railleuse. Point. À peine parut-elle y faire attention. La comtesse Sarah, qui parlait, s'interrompit pour dire « Je vous salue, mademoiselle. » Et tout aussitôt poursuivit, sans que sa voix trahît la plus légère émotion. Même mademoiselle Henriette put constater qu'on l'avait ménagée. Son couvert n'était pas mis près de sa belle-mère. On lui avait réservé sa place entre Sir Thomas Elgin et Mistress Brian. Elle s'assit, et tout en mangeant, elle observait à la dérobée, et de toute l'intensité de sa pénétration, ces étrangers, désormais les maîtres de sa destinée, et qu'elle voyait pour la première fois, car c'est à peine si la veille elle les avait aperçus. La beauté de la comtesse Sarah, dont pourtant la photographie que lui avait montrée son père avait dû lui donner une idée, cette beauté éblouissante, merveilleuse, la frappa de stupeur et d'épouvante. Il était visible que la jeune comtesse n'avait fait que jeter à la hâte un peignoir sur ses épaules pour descendre déjeuner. Son teint était plus animé que de coutume. Elle avait les adorables confusions de la Vierge au lendemain de ses noces et toutes sortes d'embarras souriants. L'empire d'une telle femme sur un vieillard follement épris, Mademoiselle Henriette le comprit si bien qu'elle frissonna. Non moins redoutable lui paraissait l'austère Mistress Brian. On ne lisait rien dans son œil morne qu'une froide méchanceté. Rien qu'un implacable vouloir sur sa figure maigre et jaune dont on eût dit les rides immobiles creusées dans la cire. Le moins à craindre, dans l'opinion de Mademoiselle Henriette, eût encore été le long et roide Sir Thomas Elgin. Placé près d'elle, il sut avoir quelques attentions discrètes, et à un moment elle surprit dans ses yeux, pendant qu'il la regardait, quelque chose comme un sentiment de commisération. « Et cependant, songea-t-elle, c'est de lui que M. de Brévent me recommande surtout de me défier. » Mais le déjeuner finissait. Mademoiselle Henriette se leva, et après s'être inclinée sans mot dire, elle regagnait son appartement quand elle fut arrêtée dans l'escalier par des gens qui montaient une lourde armoire à glace. S'étant informée, elle apprit que Sir Tom et Mrs. Brian, devant désormais habiter l'hôtel, ont achevé leur emménagement. Elle hocha tristement la tête. Mais chez elle, une bien autre surprise l'attendait. Trois domestiques étaient en train d'enlever les meubles de son salon, sous la direction de M. Ernest, le valet de chambre du comte. « Que faites-vous là ? » interrogea-t-elle, « et qui vous a permis ?»« Nous exécutons les ordres de M. le comte, » répondit M. Ernest. « Nous débarrassons l'appartement de mademoiselle pour Mme Brian. » Et se retournant vers ses collègues, « Allons, vous autres, » fit-il, « sortez-moi ce canapé. » Perdue de stupeur, Mademoiselle de la Villaudrie demeurait pétrifiée sur place, regardant les domestiques poursuivre leur besogne. « Quoi ? Des aventuriers avides s'étaient emparés de l'hôtel. Ils l'envahissaient. Ils régnaient despotiquement, et cela ne leur suffisait pas. Ils prétendaient lui disputer, lui arracher l'espace qu'elle y occupait, elle, la fille de leur dupe, l'unique héritière du comte de la Villaudrie. L'impudence lui parut si monstrueuse que, n'y pouvant croire, cédant à un mouvement spontané, elle redescendit dans la salle à manger et s'adressant à son père. « Est-ce vraiment vous, monsieur, demanda-t-elle, qui avez commandé à vos gens de me déménager ? Moi-même, oui, ma fille. De vos trois pièces, mon architecte va faire un grand salon pour Mrs. Brian, dont l'appartement est vraiment trop petit. » La jeune comtesse eut un mouvement de dépit. « Je ne comprends pas, dit-elle, que tant Brian accepte cela. »« Pardon, interrompit la respectable dame, c'est absolument contre mon gré que cela se fait. » Mais le comte intervenant, « Sarah, chère adorée, prononça-t-il, permettez-moi d'être seul juge de l'opportunité des décisions qui concernent notre fille. » Si ferme était l'accent de M. de la Villaudrie qu'on eût juré que cette idée de déménagement venait de lui seul. « Je n'agis jamais à la légère, moi, continua-t-il, et je prends le temps de mûrir mes déterminations. Ici, ma conduite est toute tracée par les règles de la plus vulgaire bienséance. Mrs. Brian n'est plus jeune, ma fille n'est qu'une enfant. Si l'une des deux doit se résigner à quelques petites gênes, c'est ma fille, évidemment. » Toute une pièce, M. Thomas Elgin se dressa. « Je vous louais, » commença-t-il. Malheureusement, le reste de sa phrase se perdut en un bredouillement confus. Il venait sans doute de se rappeler certains serments qu'il avait faits. Et résolu à ne se point mêler du ménage du comte, révolté d'un autre côté de ce qu'il estimait un odieux abus de pouvoir, il quitta brusquement le salon. Ses regards, sa physionomie, son geste avaient si clairement trahi ses sentiments que Mademoiselle Henriette en fut toute saisie. Mais déjà, M. de la Villaudrie, après une mine de surprise, poursuivait « Ainsi donc, ma fille habitera le logement qu'occupait autrefois la dame de compagnie de ma... c'est-à-dire de sa mère. Il est petit, mais en somme plus que suffisant pour elle. » Il a en outre cet avantage d'être commandé par une des pièces de notre appartement à nous, ma chère Sarah. Et c'est à considérer lorsqu'il s'agit d'une étourdie qui a si étrangement abusé de la liberté que lui laissait mon aveugle confiance. Que dire, que répondre ? Seule avec son père, Mademoiselle Henriette se fut certainement défendue. Elle eut essayé de le faire revenir sur sa détermination, elle l'eût supplié. Elle se fut peut-être traînée à ses genoux. Mais ici, en présence de ces deux femmes, sous l'œil railleur de la comtesse Sarah, était-ce possible ? Ah, elle fut morte mille fois plutôt que de leur donner à ces misérables aventuriers la joie de sa douleur et d'une humiliation nouvelle. Qu'elle m'écrase, pensait-elle, jamais elles ne m'entendront me plaindre, ni demander grâce. Et comme son père, tout en les pillant à la dérobée, lui demandait « Eh bien, ce soir même vous serez obéi, monsieur le comte, » répondit-elle. Et par une sorte de prodige d'énergie, elle sortit du salon calme, le front haut, sans avoir versé une larme. Dieu sait ce qu'elle endurait cependant. Abandonner ce cher petit appartement, où tant d'heures heureuses s'étaient écoulées, où tout lui rappelait quelques doux souvenirs, certes, c'était un horrible crève-cœur. Ce n'était rien comparé à cette épouvantable perspective de vivre dans l'appartement même de la comtesse Sarah sous la même clé. C'était jusqu'à la liberté de pleurer qui lui était ravie. L'excès de son malheur ne lui arracherait pas un sanglot, sans que de l'autre côté de la cloison la comtesse Sarah l'entendît et s'en délecta. Ainsi elle se désespérait, quand la lettre qu'elle avait écrite à Daniel se représenta à sa mémoire. Pour que M. de Brévent l'eût le jour même, ainsi qu'il le demandait, Il n'y avait plus un instant à perdre. Et encore fallait-il renoncer à la poste, car elle était près de 4 heures et employait un commissionnaire. Elle sonna donc Clarisse, sa confidente, résolue à l'expédier rue Lafitte. Mais au lieu de Clarisse, ce fut une fille de service qui se présenta et qui dit « La femme de chambre de mademoiselle n'est pas à l'hôtel. Madame Boyan vient de l'envoyer rue du Cirque, si je pouvais la remplacer ?»« Non, je vous remercie, » répondit mademoiselle Henriette. Ainsi, on la comptait pour rien. Il lui était défendu de manger chez elle, on la chassait de son appartement, on disposait d'une femme attachée à son service. Et en être réduite à subir sans révolte de telles humiliations. Mais il leur fuyait, et avec chaque minute s'envolait une de ces chances qui restait que M. de Brévent eût la lettre en temps utile. « Eh bien, je l'apporterai moi-même au commissionnaire, » se dit mademoiselle Henriette. Et, quoiqu'il ne lui fût pas arrivé deux fois en sa vie de traverser la rue seule, elle mit son chapeau, jeta un manteau sur ses épaules et descendit rapidement. Le Suisse, un gros homme très fier de sa livrée chargée d'or, était assis devant le pavillon qu'il habitait, fumant et lisant son journal. « Ouvrez-moi !» lui dit mademoiselle Henriette. Mais lui, sans daigner ôter sa pipe de sa bouche, sans seulement se lever, répondit la torogue. « Monsieur le comte m'a donné la consigne formelle de ne jamais laisser sortir mademoiselle sans son autorisation verbale ou écrite, de sorte que... »« Insolent !» interrompit mademoiselle Henriette. Et résolument, elle s'avança vers le pavillon, étendant la main pour tirer le cordon. Déjà, devinant son attention et plus prompte qu'elle, le fils s'était jeté en travers de la porte, criant de toutes ses forces comme s'il eût appelé au secours. « Mademoiselle, mademoiselle, arrêtez! J'ai ma consigne et il y va de ma place !» Au cri du Suisse, une douzaine de valets qui flânaient dans les écuries sous le vestibule et dans les cours arrivèrent. Puis accoururent Sir Tom, qui allait monter à cheval, et bientôt le comte de la ville Audrey. « Que voulez-vous? Que faites-vous là ? » demanda-t-il à sa fille. « Vous le voyez, mon père, je désire sortir. »« Seul ?» ricana le comte, et durement. « Cet homme, » reprit-il en montrant le Suisse, « serait impitoyablement chassé s'il vous laissait passer seul le seuil de la porte. « Oh, vous avez beau me regarder, c'est ainsi. Vous sortirez désormais quand et avec qui bon me semblera. Et n'espérez pas vous soustraire à mon infatigable surveillance. J'ai tout prévu. La petite porte dont vous aviez la clé a été condamnée. Et si jamais un homme osait s'introduire dans le jardin, les jardiniers ont ordre de tirer dessus comme sur un chien enragé, que ce soit celui avec qui je vous ai surprise il y a 10 jours ou un autre. » Sous cet ignoble et lâche outrage, mademoiselle de la ville Audrey chancela, mais se redressant presque aussitôt, « Grand Dieu !» s'écria-t-elle, « c'est du délire, un délire épouvantable !»« Mon père, avez-vous bien conscience de ce que vous dites ?» Et le régalement d'un valet arrivant jusqu'à son oreille. « Du moins, » reprit-elle avec une violence convulsive, « nommez-le, cet homme qui était avec moi dans le jardin, nommez-le tout haut, devant tous. Dites que c'était Monsieur Daniel Chancé, celui que ma pauvre mère avait choisi pour moi, entre tous. Celui que, durant des années, vous avez admis ici, à qui vous aviez promis ma main, qui était mon fiancé, et qui serait mon mari si nous eussions accepté la honte de votre mariage. Dites que c'était M. Daniel Chancé que vous aviez congédié, vous, la veille, et que le lendemain, grâce à un crime, grâce à un faux, votre sarabe forçait à s'embarquer. Car il fallait l'éloigner à tout prix. Lui, à Paris, jamais on n'eût osé me traiter comme on me traite. » Stupéfait de cette véhémence inouïe, le comte ne trouvait que des paroles sans suite. Et mademoiselle Henriette allait poursuivre, quand elle sentit qu'on lui prenait le bras, et que doucement, et d'une force irrésistible, on l'entraînait vers l'hôtel. C'était Sir Tom qui la sauvait de son propre égarement. Elle le regarda, une grosse larme roulait le long de la joue de l'impassible gentleman. Puis, lorsqu'il l'eut conduite jusqu'à l'escalier et qu'elle tint la rampe, « Pauvre fille, » murmura-t-il, et s'éloigna à grands pas. Oui, pauvre Henriette, en effet. Sa raison, sous tant de chocs furieux, vacillait, et saisie de vertige, haletante et perdue, elle s'était élancée à travers l'escalier, précipitant sa course comme si elle avait été poursuivie par les flammes d'un effroyable incendie, croyant encore entendre les abominables accusations de son père et les ricanements des valets. « Mon Dieu !» sanglotait-elle, « prenez pitié de moi !» C'est qu'elle n'avait plus rien à espérer que de Dieu, pensait-elle, livrée sans défense aux caprices d'un ennemi impitoyable, sacrifiée à l'implacable haine d'une marâtre, abandonnée de tous, trahie et reniée par son père lui-même. D'heure en heure, par un incompréhensible enchaînement de circonstances fatales, elle avait vu se resserrer jusqu'à l'écraser le cercle infernal où elle se débattait misérablement. Que voulait-on d'elle? Pourquoi prenait-on à tâche d'exaspérer sa douleur? Attendait-on quelque chose de l'excès de son désespoir? Malheureusement, elle ne s'arrêta pas à cette idée, trop inexpérimentée pour soupçonner les raffinements de scélératesse inouïe à ce point d'étonner l'imagination. Ah, qu'un mot de Daniel lui eût été utile en ce moment décisif! Mais tremblant d'aviver les angoisses de sa fiancée, le malheureux n'avait pas osé lui répéter cette phrase terrible échappée à la première expansion de M. de Brévent.
Mr. Brandon laisse aux imbéciles le fer et le poison, moyen grossier et dangereux de se débarrasser des gens. Elle a, pour supprimer ce qui la gêne, des expédients plus sûrs et où la justice n'a rien à voir. Perdue dans ses sombres réflexions, la pauvre fille oubliait l'heure et ne remarquait pas que depuis longtemps déjà la nuit était venue quand la cloche sonna le dîner. Elle était libre de ne pas descendre, mais la pensée que la comtesse Sarah croirait l'avoir brisée la révolta. « Non, elle ne saura jamais ce que je souffre, » se dit-elle. Sonnant donc Clarisse qui était revenue de la rue du cirque, « Vite, lui commanda-t-elle, habillez-moi. » Et en moins de 5 minutes, elle eut relevé ses beaux cheveux et revêtu une de ses plus jolies toilettes. C'est alors que, changeant de robe, elle sentit sous sa main le froissement d'un papier. « Ma lettre pour Daniel, murmura-t-elle, je l'avais oubliée. » Le moment n'était-il pas passé de l'envoyer à M. de Brévon? C'était probable. Pourquoi ne pas essayer cependant? Elle le remit donc à Clarisse en lui disant « Vous allez prendre un fiacre et porter immédiatement cette lettre rue Lafitte 62 à M. de Brévon. S'il est sorti, vous la laisserez en recommandant bien de l'y remettre dès qu'il entrera. Préparez un prétexte dans le cas où on vous demanderait pourquoi vous sortez et soyez discrète. » Et elle-même descendit si pénétrée de sa résolution de dissimuler ses souffrances qu'elle avait le sourire sur les lèvres en entrant dans la salle à manger. La fièvre qui la dévorait donnait à son teint une animation extraordinaire et à ses yeux un étrange éclat. Sa beauté, un peu effacée d'habitude, resplendissait jusqu'à étonner même près de la beauté merveilleuse de la comtesse Sarah. À ce point que M. de la Villaudrée en fut frappé. « Oh oh !» fit-il en jetant à sa jeune femme un regard d'intelligence. Ce fut d'ailleurs la seule marque d'attention qui accueillit Mademoiselle Henriette. Personne ensuite ne sembla prendre garde à sa présence, sauf l'honorable Sir Elgin, dont l'œil dur s'adoucissait dès qu'il s'arrêtait sur elle. Mais que lui importait? Affectant une assurance bien loin de son âme, elle se forçait de manger, quand un domestique entra et respectueusement va murmurer quelques paroles à l'oreille de la jeune comtesse. « C'est bien, » répondit-elle à haute voix, « j'y vais. » Et sans explication, elle se leva, sortit et resta bien 10 minutes dehors. « Qu'était-ce ? » demanda M. de la Villaudrée, de l'accent du plus tendre intérêt dès que Mademoiselle Sarah reparut. « Rien, mon ami, » répondit-elle en se rasseyant. « Une niaiserie et un ordre à donner. » Cependant, sous l'air insoucieux de sa belle-mère, Mademoiselle Henriette avait cru discerner une satisfaction cruelle. Bien plus, il y avait semblé surprendre entre la comtesse Sarah et l'autre Mistress Boyan deux regards rapidement échangés, l'un demandant « Eh bien ?» l'autre répondant « Oui ». Prévention ou non, la fortunée en reçut comme un coup dans la poitrine. « Ces misérables, pensa-t-elle, viennent de me préparer quelques nouvelles perfidies. » Et ce soupçon s'enfonça si avant dans son esprit que le dîner fini, au lieu de regagner son appartement, elle suivit au salon son père et les nouveaux hôtes de l'hôtel. La famille, comme disait M. de la Villaudrée quand il parlait de Sir Tom et de Mistress Boyan. Ils n'y restèrent pas longtemps seuls. Le comte et la jeune comtesse avaient dû faire savoir qu'ils resteraient chez eux, car bientôt arrivèrent beaucoup de visiteurs qui avaient été, quelques-uns, dans l'intimité de M. de la Villaudrée, le plus grand nombre des familiers de la rue du cirque. Mais Mademoiselle Henriette appliquait-on fortement son attention à observer sa belle-mère pour remarquer de quel air on l'examinait, quel regard on lui adressait à les dérober, et l'affectation des femmes et des jeunes filles à la laisser seule. Pour ouvrir son entendement à la vérité, pour amener sa pensée à l'horrible réalité de la situation, un fait brutal était nécessaire. Il ne tarda pas à se présenter. Les visiteurs affluents, la conversation avait cessé d'être générale. Des groupes s'étaient formés et deux dames étaient venues s'asseoir près de Mademoiselle Henriette. Deux amies de la comtesse Sarah, sans doute, car elle ne les connaissait pas, et l'une d'elles avait un accent étranger assez prononcé. Elle causait. Machinalement, Mademoiselle Henriette prêta l'oreille. « Vous n'avez pas amené votre fille ?» demandait l'une. « Certes non, » répondait l'autre, « et je ne l'amènerai pas ici pour un empire. Ignorez-vous donc les mœurs de Mademoiselle de la Villaudrée ? C'est inimaginable et déplorablement scandaleux. Le jour du mariage de son père, elle s'était enfuie avec on ne sait qui par la faute d'un domestique qui a été chassé. Pour la retrouver et la ramener, il a fallu l'intervention de la police. Sans notre chère Sarah, qui est divinement indulgente, le comte lui mise en correction. » Un cri étouffé les interrompit, elles se détournèrent. Mademoiselle Henriette venait de se trouver mal et de glisser sur le tapis. À l'instant et d'un même mouvement, tout le monde fut debout. Mais déjà, devançant tous les autres, l'honorable Sir Thomas Elgin s'était élancé, si promptement même et si à propos, qu'on eût dit qu'il avait eu comme l'intuition de l'accident, qu'il l'attendait et qu'il l'épiait. Soulevant d'un bras robuste Mademoiselle Henriette, il l'avait posée sur un canapé, non sans prendre le soin de glisser un coussin sur sa tête. Aussitôt, la comtesse Sarah et toutes les femmes présentes s'étaient empressées autour de la malheureuse jeune fille, tapant un petit coup sec dans la paume de ses mains, frottant ses tempes de vinaigre et d'eau de Cologne, promenant obstinément sous ses narines des flacons de sel. Cependant, Tous les efforts pour la ranimer demeuraient inutiles, et cela devenait si étrange que M. de la Villaudric commençait à s'émouvoir, lui qui tout d'abord s'était écrié « Baste, laissez donc, ce ne sera rien !» Les transports furieux d'une passion sénile n'avaient pas encore étouffé en lui tous les instincts de la paternité, et l'inquiétude réveillait son affection autrefois si tendre. Il se précipita donc vers le vestibule, criant au valet de pied qui y était assemblé « Vite, qu'on court chercher un médecin, n'importe lequel, le plus proche !» Ce fut, comme le signal, une déroute générale des invités. Trouvant que cet évanouissement durait par trop longtemps, redoutant peut-être une terminaison fatale, une scène de douleur, des larmes, il gagnait sournoisement la porte et s'esquivait. Si bien que M. de la Villaudry, la jeune comtesse, Mrs. Ryan et Sir Tom ne tardèrent pas à se trouver seuls près de la pauvre Henriette toujours inanimée. « Nous ne devrions pas la laisser là, » dit alors Madame Sarah. « Elle serait mieux dans son lit. »« Oui, c'est vrai, vous avez raison, » approuva le comte. « Je vais la faire porter dans son appartement. » Il allongeait le bras pour sonner les domestiques, lorsque Sir Thomas Elgin l'arrêtant d'une voix émue. « Laissez, monsieur le comte, je la montrerai seule. » Et sans attendre une réponse, il l'enleva comme une plume et la porta jusque chez elle, suivie de monsieur de la Villaudry et de la jeune comtesse. Il ne pouvait rester dans la chambre de mademoiselle Henriette, mais il parut ne pouvoir prendre sur lui de s'en éloigner. Longtemps, les domestiques ébahis le virent se promener là-bas fiévreux dans le corridor, donnant, lui toujours si impassible, les signes les plus manifestes d'une agitation extraordinaire. Et toutes les 10 minutes, il interrompait sa promenade pour demander à travers la porte d'une voix troublée « Eh bien ?»« Elle est toujours dans le même état, » lui répondait-on. C'est que les médecins, il en était venu d'eux, n'obtenaient pas de meilleurs résultats que la comtesse Sarah et ses amis. Ils avaient épuisé les ressources ordinaires indiquées en pareil cas, et visiblement, il commençait à s'étonner de la persistance de cette syncope. Et ce n'est pas sans anxiété que M. de la Villaudry les voyait, debout dans l'embrasure d'une fenêtre, se consultant à voix basse, d'accord sur ce point qu'il fallait recourir à quelques moyens énergiques. Enfin, un peu après minuit, Sir Tom vit la jeune comtesse sortir de l'appartement de Mademoiselle Henriette. « Comment va-t-elle » s'écria-t-il. Alors la comtesse, tout haut et de façon à être entendue des domestiques, « Elle revient à elle et c'est même pour cela que je m'éloigne. Elle me hésite terriblement, cette chère et malheureuse enfant, que ma vue lui ferait peut-être mal. » Mademoiselle Henriette, en effet, reprenait connaissance. Un frisson l'avait secouée d'abord. Elle avait ouvert les yeux ensuite, puis elle s'était haussée péniblement sur ses oreillers, regardant. Évidemment, elle ne se souvenait de rien encore. Et d'un mouvement machinal, elle passait et repassait sa main sur son front, comme pour écarter le crêpe funèbre qui voilait sa pensée. Considérant d'un œil hagard les médecins, son père et sa confidente Clarisse qui, agenouillée près de son lit, pleurait. Enfin, tout à coup, l'horrible réalité éclata dans son cerveau et elle se renversa en arrière en jetant un grand cri. « Mon Dieu !» Mais elle était sauvée. Et les médecins ne tardèrent pas à se retirer, déclarant qu'il n'y avait plus rien à craindre pourvu qu'on suivît leurs prescriptions. Monsieur de la Villaudry alors s'approcha de sa fille et lui prenant les mains. « Voyons, cher enfant, interrogea-t-il, que s'est-il passé, qu'as-tu eu ?» Elle arrêta sur lui un regard désolé, puis d'une voix sourde. « Il n'y a que vous m'avez perdu, mon père, » répondit-elle. « Comment ?» fit le comte. « Qu'est-ce que tu dis ?» Et très embarrassé, furieux peut-être contre lui-même et se cherchant sans doute des excuses. « C'est un peu ta faute aussi, » ajouta-t-il niaisement. « Pourquoi te conduire si mal avec Sarah et prendre la tâche de m'exaspérer ?»« Oui, c'est juste, c'est ma faute, » murmura Mademoiselle Henriette. Elle disait cela d'un ton d'ironie amère, mais plus tard, lorsqu'elle fut seule et plus calme, réfléchissant dans le silence de la nuit, elle dut reconnaître et s'avouer que c'était vrai. Le scandale dont elle avait prétendu écraser la comtesse Sarah retombait sur elle-même et l'écrasait. Cependant, le lendemain, elle se trouva un peu mieux, et quoi que pût lui dire Clarisse, elle voulut absolument se lever et descendre. C'est que toutes ses espérances désormais reposaient sur la lettre de Daniel. C'est que de jour en jour, elle attendait celui qui devait la lui remettre, M. de Brévent, et que, pour rien au monde, elle n'eût voulu être absente quand il se présenterait. Mais c'est en vain qu'elle l'attendit ce soir-là et 4 soirs encore. Attribuant son retour à quelques nouveaux malheurs, elle pensait lui écrire qu'enfin le mardi, c'était le jour de réception choisi par la comtesse Sarah, lorsque déjà le salon était plein de monde, le domestique annonça « Monsieur Palmer, Monsieur de Brévent, ému de la plus violente émotion, Mademoiselle Henriette se retourna vivement, attachant sur la porte un de ses regards où l'âme se concentre tout entière. Elle allait donc connaître enfin cet ami que Daniel lui avait présenté comme un autre lui-même. 2 hommes entrèrent. L'un, âgé déjà, avait les cheveux blancs et la physionomie grave et solennelle d'un membre du Parlement. L'autre, qui paraissait de 30 à 35 ans, avait la mine froide et dédaigneuse, la lèvre un peu pincée et l'œil sardonique. C'est ce dernier, pensa la jeune fille, qui est l'ami de Daniel. À première vue, il lui déplut extrêmement, L'examinant, elle trouvait de l'affectation à son assurance et quelque chose de louche dans toute sa personne. Mais l'idée ne lui vint pas de se défier de M. de Brévent. Daniel lui avait recommandé une confiance aveugle, cela suffisait. Elle était trop punie d'avoir suivi ses inspirations pour songer à renouveler l'expérience. Elle ne le perdait pas de vue, cependant. Après avoir été présentée par M. Palmer à la comtesse Sarah et à M. de la Ville-Audrey, il s'était jeté dans la foule et manœuvré pour se rapprocher d'elle. Il allait d'un groupe à l'autre, lançant un mot de ci et de là, gagnant insensiblement et sans trop d'affectation une petite chaise restée libre pour l'air de mademoiselle de la Ville-Audrey. Et à l'air de parfait sang-froid dont il en prit enfin possession, on devait croire qu'il avait mesuré tout ce que pouvait avoir de périlleux et de compromettant une conversation confidentielle avec une jeune fille sous le feu des regards de 50 ou 60 personnes. Aussi débuta-t-il par quelques-unes de ces banalités qui sont la monnaie courante des salons, parlant assez haut pour être entendu des voisins et dérouter leur curiosité, s'ils eussent eu la fantaisie d'écouter. Même remarquant que mademoiselle de la Ville-Audrey était fort rouge et tout oppressée, et qu'elle arrêtait sur lui des regards brûlants d'anxiété, « De grâce, mademoiselle, fit-il vivement, affectez plus d'indifférence. Souriez, on nous épie peut-être. Souvenez-vous que nous ne devons pas nous connaître, que nous sommes étrangers l'un à l'autre. » Et il se mit à entamer très haut l'éloge de la dernière pièce du gymnase, jusqu'à ce qu'enfin, pensant avoir suffisamment donné le change, il se rapprocha un peu et baissant la voix. « Il est inutile, mademoiselle, poursuivit-il, de vous dire que je suis monsieur de Brévent. Je vous avais entendu annoncer, monsieur, répondit sur le même ton mademoiselle de la Ville-Audrey. Je me suis permis de vous écrire, mademoiselle, sous le couvert de votre femme de chambre, Clarisse, selon les indications de Daniel, mais j'espère que vous m'excuserez. Je n'ai pas à vous excuser, monsieur, mais bien à vous remercier du plus profond de mon âme de votre généreux dévouement. » Il n'est pas d'homme complet. Une fugitive rougeur courlera les pommettes de monsieur de Brévent. Il eut une petite toux sèche et par deux ou trois fois passa la main entre son faux col et son cou, comme s'il lui éprouvait quelque gêne à la gorge. « Vous avez dû trouver, monsieur, continuait mademoiselle Henriette, que je mettais peu d'empressement à profiter de votre obligeant avis, mais il m'est survenu des empêchements. »« Oui, je sais, interrompit monsieur de Brévent en hochant tristement la tête. Votre femme de chambre m'a tout appris. Car elle m'a trouvé chez moi, elle a dû vous le dire, de même qu'elle a dû vous rassurer et vous apprendre que votre lettre arrivait encore assez à temps pour être gendarmienne. Elle gagnera au plus de 15 jours, car les dépêches de la Cochinchine ne partent qu'une fois par mois le 29. » Mais il s'arrêta court, ou plutôt haussa le ton subitement pour reprendre l'analyse de la pièce du gymnase. De jeunes femmes venaient de s'arrêter tout à côté de lui. Dès qu'elles s'éloignèrent, « Je vous apporte, mademoiselle, poursuivit-il à voix basse, la lettre de Daniel. Ah, je l'ai là, dans la main, pliée fort menue. Si vous voulez bien laisser tomber votre mouchoir, je les glisserai en le ramassant. » La manœuvre n'était point neuve, ni surtout fort difficile. Cependant, mademoiselle Henriette s'en tira assez mal. Le mouvement dont elle laissa échapper son mouchoir ne semblait rien moins qu'involontaire, et elle mit à le reprendre un empressement beaucoup trop marqué. Enfin, quand elle sentit le froissement du papier sous la batiste, elle devint pourpre, jusqu'à la racine des cheveux. Heureusement, M. de Brévent eut la présence d'esprit de se lever vivement et de déranger un peu sa chaise, l'aidant ainsi à dissimuler son trouble. Puis, lorsqu'il la vit assez remise, il se rassit, et de l'accent du plus sincère intérêt, « Maintenant, mademoiselle, reprit-il, permettez-moi de m'informer de votre situation. » « Elle est affreuse, monsieur. On vous tourmente ? Indignement. Votre belle-mère, sans doute. Hélas, qui donc serait-ce ? Mais elle dissimule, voilant sa noire méchanceté de la plus doucereuse hypocrisie. En apparence, elle est toute indulgence pour moi. Et c'est mon père qu'elle fait l'instrument de ses rancunes, mon pauvre père, autrefois si bon et qui m'aimait tant. » Elle s'attendrissait, et monsieur de Brévent voyait si bien les larmes la gagner que tout effrayé. « Mademoiselle, fit-il, mademoiselle, au nom du ciel, maîtrisez-vous. » Et empressé de détourner de son père la pensée de mademoiselle Henriette, « Comment est pour vous, Mistress Brian ? » interrogea-t-il. « Elle prend toujours parti contre moi, naturellement. Et Sir Tom, vous m'avez écrit, monsieur, de me défier de lui plus que de tous les autres, et je me défie. Et pourtant, vous l'avouerai-je, lui seul ici semble toucher de ma détresse. Ah, c'est pour cela, précisément, qu'il est à craindre. Pourquoi ? » Monsieur de Brévent hésita et très vite, non sans avoir jeté autour de lui un regard inquiet. « Parce que, répondit-il, Sir Thomas Elgin pourrait bien caresser cette espérance de remplacer Daniel dans votre cœur et de devenir votre mari. »« Grand Dieu ! » fit mademoiselle Henriette en se rejetant en arrière avec un geste d'horreur. « Est-ce possible ? » ?»« J'en mettrai la main au feu, » déclara M. de Brévent. Et comme s'il eût été épouvanté de ce qu'il venait de dire, « Oui, ajouta-t-il, je jurerai que j'ai pénétré les intentions de cet homme, et avant longtemps vous en aurez quelques terribles preuves. Mais que ceci, mademoiselle, demeure entre nous un secret plus religieusement gardé que tous les autres. » Que rien jamais ne vous arrache seulement une allusion. Que faire, maman et la pauvre fille, que résoudre ? Il n'y a que vous, monsieur, qui puissiez me donner un conseil. Pendant un bon moment, Monsieur de Brévent garda le silence, puis enfin, d'une voix triste, « Mon expérience, mademoiselle, prononça-t-il, ne me fournit qu'un conseil, prendre patience. Parlez peu, agissez le moins possible et efforcez-vous de paraître insensible aux outrages. Je vous dirai, si vous voulez bien excuser la trivialité de la comparaison, imitez ces faibles insectes qui, dès qu'on les touche, font les morts. Ils sont sans défense et leur unique chance de salut. C'est la seule que je vois. » Il s'était levé et, tout en s'inclinant devant mademoiselle Henriette, « Je dois encore vous prévenir, mademoiselle, ajouta-t-il, de ne vous point étonner si vous me voyez tout faire pour m'avancer dans les bonnes grâces de votre belle-mère. Croyez que cette duplicité répugne à la loyauté de mon caractère, mais je n'ai pas d'autre moyen de conquérir le droit de venir souvent ici, de vous voir souvent par conséquent, et de vous servir et de vous défendre, ainsi que je l'ai juré à mon meilleur ami, à Daniel. »